tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit à... Au pire de ses souffrances, il a dit tout est accompli, et tout est accompli pour un plein salut, pour une pleine manifestation de sa grâce dans nos vies. Et ce matin, on est vraiment ensemble dans la présence de Jésus vivant, ressuscité, vivant en nous. Et j'entendais parler de locaux, je sais que bientôt vous allez déménager sur l'ancienne pizzeria, la Tumiania. Mais vous savez, le local le plus important, c'est vos cœurs, vos vies.
Amen.
Vous en êtes convaincus, c'était la prière de la sœur aussi tout à l'heure. Et c'est étonnant pour moi de vous dire quelque chose, c'est que vous avez les salutations de l'église de Gradignan. Jusqu'à là, ça va. Mais si je vous dis de l'église de la prison de Gradignan.
Amen.
Parce qu'on a des frères et sœurs qui sont en détention, mais qui sont libres dans leur cœur parce que Jésus est venu les rencontrer dans la cellule, au mitard, est venu libérer tout ce qu'ils avaient fait, pardonner tout ce qu'ils avaient fait, libérer leur cœur. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui prient pour sortir de prison, mais voilà 7 ans, moi je priais pour entrer dans la prison. Ouais, je priais pour le Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'entrer dans la prison. Permets-moi de dire à tous mes frérots qui sont là, mais qui n'ont jamais entendu ton évangile, qui ne connaissent pas l'œuvre de la croix, combien ils sont aimés, combien ce que tu as fait est suffisant, parce que tout est accompli pour un plein salut. Alors il y a 7 ans, le Seigneur m'a fait cette grâce d'ouvrir la porte, et voilà, je vais 6 jours sur 7 à la maison d'arrêt de Gradignan, et c'est une joie et un honneur pour moi de vous emmener d'avoir pu emmener des frères, enfin ils sont venus par eux-mêmes maintenant parce qu'ils sont libres, je les présenterai tout à l'heure, qui vont raconter de quelle manière ils ont pu rencontrer Jésus, et de quelle manière, avant même de sortir de détention, ils étaient libres dans leur cœur.
Amen.
Et ça, c'est une grâce, c'est une révélation que Jésus fait par l'Esprit. Il y a quelque temps, j'ai un petit frère, mon héberger, qui m'a fait un tableau. J'ai dit, j'aimerais bien que tu fasses un tableau pour les frères de la maison d'arrêt de Gradignan. C'était pour Pâques. Et il m'a fait ce tableau-là. Je ne sais pas si tout le monde voit. Il y a à la fois quelqu'un qui est attaché avec ses mains, mais son esprit est libéré et il connaît une autre. Il connaît son identité, en fait. L'identité que le Seigneur lui a donnée d'un homme libre en Christ. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons être libres. Chaque jour, donc 6 sur 7, je vais là-bas et Gabriel Dussin a eu l'occasion de nous accompagner hier encore et depuis plus que moi, puisqu'elle y est depuis 10 ans. Et non seulement d'accompagner, de partager avec les détenus, mais aussi de vous communiquer ici des noms pour prier. Et on est vraiment reconnaissant que l'Assemblée de Mérignac prie pour les détenus, se sent concernée par les détenus. Pour certains, tout à l'heure, vous m'avez dit, mais on te connaît, Étienne, portes ouvertes. J'ai dit, oui, ça c'était... Je ne suis pas schizo, je n'ai pas plusieurs identités, j'ai une identité en Christ. En tout cas, je suis venu à 4 reprises ici, 3-4 reprises, pour vous parler des chrétiens persécutés, vous vous rappelez ? Avec portes ouvertes, je revenais d'Irak, je vous avais raconté que j'avais vu des frères et sœurs qui, eux, n'avaient plus de locaux, plus de pasteurs, étaient dans des containers, mais ils avaient une foi tellement vivante que j'étais pas jaloux, mais presque. Hein. Je disais, mais ils ont un feu dans leur cœur. Et ce feu, c'est le Seigneur qui leur avait donné. Alors, il y a des frères dans des containers, il y a des frères en maison d'arrêt, il y a des frères qui sont là aussi pour témoigner. Mais le point commun, le lien que je veux faire, c'est que de la même façon que quand Jésus s'est révélé à Paul, vous vous rappelez, sur le chemin de Damas, Paul, il allait pour persécuter les chrétiens, il était habité de sa religion, il avait une ferveur pour sa religion, une si grande ferveur qu'il était prêt à tuer, à être complice de meurtre. Il était présent lorsque Étienne s'est fait tuer. Eh bien, Paul était là, il avait son programme, il suivait sa religion, et tout à coup, ce programme va être modifié. Il va devoir mettre pause, parce qu'il va tomber de son cheval, il va tomber, et il va entendre une voix qui va lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Jésus s'est identifié à l'Église persécutée. Jésus s'est identifié, l'Église est son corps. L'Église, c'est l'Assemblée ici, mais lui seul connaît exactement. Il s'est identifié à l'Église persécutée de la même façon qu'en Matthieu 25, il va dire « J'étais nu, j'étais étranger, j'étais en prison et vous êtes venus me visiter ». Il s'identifie à l'étranger, il s'identifie à celui qui n'a pas de quoi se vêtir. Il s'identifie aux frères, aux gars qui sont en prison, aux détenus qui sont en prison. Il s'identifie à eux et il attend qu'on aille les visiter. Ah ouais, mais moi je peux pas y aller et tout ça. Moi c'est ce que je voulais dire, jamais. Bon, je vous la fais courte, mais moi j'avais un passé judiciaire aussi. J'aurais pu y aller de l'autre manière, hein. 10 ans, 15 ans auparavant, avant de connaître Christ, j'ai fait pas mal de choses. Mais là, par sa grâce, il m'a pardonné, transformé et il m'a ouvert une porte différente. Et je peux aller rencontrer ceux qui sont devenus mes frères. Alors c'est une joie de vous présenter Johnny aujourd'hui, qui a pu venir là. Tu peux venir si tu veux et raconter un petit peu de quelle manière tu as vécu cette rencontre avec Jésus.
Donc en fait, voilà, j'ai fait 6 mois de détention pour violence. Et en fait, lors de ma garde à vue, comme tout homme, je pense, quand il en est dans la pire des situations, c'est là où il crie à Dieu, en fait. Et moi, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit, écoute, je mérite peut-être d'être là, mais en tout cas, fais en sorte que plus jamais ça se reproduise. Et au final, Dieu m'a entendu, puisqu'il m'a fait rencontrer Jésus au travers d'Éric.
Amen.
Donc, voilà.
Tu te rappelles comment ça s'est passé un peu la première fois qu'on s'est vu, tout ça?
Ouais, tu m'as serré le bras, la main. Et je me rappelle plus ce que tu m'as dit exactement, mais en tout cas, c'était une grâce. Et en fait, je me dis que ces 6 mois de prison, en fait, c'était une grâce aussi, parce que ça m'a permis d'être 6 mois dans la parole intensive. Alors moi, Jésus, je ne connaissais pas du tout. Parce que mes parents sont athées, enfin, j'ai pas grandi comme ça, quoi. Et en fait, ce qui a été magnifique, c'est que moi, j'étais un peu... Comment dire? Je pense pas que si j'avais pas rencontré Jésus, je serais peut-être pas ici aujourd'hui, quoi. Et vraiment, quand j'ai senti son amour... C'était vraiment une grâce, enfin je sais pas comment, c'est tellement puissant que je peux pas vous le décrire. Excusez-moi, c'est un peu d'émotion. Et voilà, aujourd'hui, donc c'est 6 mois, c'était 6 mois où j'ai pas pu voir mon fils. Et en fait, c'est ce que je confie à Eric, je confie que j'en pouvais plus. En plus, mon avocat et tout ça me disait que ça allait être compliqué pour que je sorte et tout ça. Et en fait, avec Eric, on a prié ensemble. Excusez-moi. Et en fait, un soir, en rentrant dans ma cellule, parce que j'avais la chance de travailler à la prison, j'ai la surveillante qui m'a dit que j'étais libre, quoi, que j'avais réussi à sortir sous condition.
C'est le soir même où tu avais dit le jour, tu dis, j'en peux plus, je veux sortir, je veux voir mon fils.
Ouais.
Et tout au début, il y avait comme une colère en toi, puis qui est partie aussi de toi. Ça, j'ai vu ton visage changer.
Oui, c'est vraiment, parce que voilà, j'étais un homme violent, aigri,
ça peut venir te rencontrer.
Ouais, donc comme je disais, en fait, moi je voulais recevoir l'amour, mais je voulais pas en donner. Et en fait, quand j'ai reçu de l'amour de Jésus, ça s'est totalement inversé. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé, oui. Aujourd'hui, j'ai envie de soutenir un frère, une sœur, une personne qui a les mêmes souffrances que moi ou d'autres, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc, voilà. Depuis, Johnny est sorti, maintenant il fait une école de coiffure barbier. Donc, messieurs, si vous voulez vous faire une barbe, tu peux le... Il n'a pas encore son salon, mais en tout cas, il est en formation pour être barbier. Pensez, priez pour Johnny. En tout cas, il a dit quelque chose qui pour moi, m'a fait du bien aussi, c'est que quand j'allais le visiter, il était toujours dans la parole, toujours dans la parole, toujours dans la parole. Et la première fois, c'est vrai qu'il y a eu cette poignée de main, et au-delà de la poignée de main, à un moment où il a vraiment vécu la repentance, la conviction que ce que Jésus avait fait était suffisant pour lui donner une nouvelle identité. Et après, et ben, il a eu cette sainte curiosité de chercher. Alors on passait d'Ézéchiel à Jérémie, à Jean, et il remplissait des cahiers aussi. Et puis il avait fait un, tu te rappelles, tu avais fait un chapitre repentance, un chapitre foi. Yes. Et vraiment, ça c'est une faim et une soif que peut-être certains d'entre nous ont perdu. Je vous invite à retrouver cette faim et cette soif de la parole de Dieu qui est vivante, efficace, qui vient nous rencontrer, nous encourager, nous fortifier. Et puis voilà, et continue bah, à prier.
C'est là où je disais que c'était une grâce. En fait, ces 6 mois de détention, c'est qu'au lieu de les vivre comme une punition, il me les a fait vivre comme une école.
Et je me rappelle, tu m'avais parlé, tu m'as dit, mais quand je sors, je vais faire une école biblique. Je t'ai dit, mais t'as déjà commencé. Tu te rappelles? Voilà, et puis on continue l'école avec Jésus, mais chacun de nous, on est encore à l'école avec Jésus. C'est pas une histoire d'y aller le matin et d'arrêter le soir. Merci Johnny, on continue à prier pour lui. Et merci. C'est un autre petit frère qui s'appelle Dan, hein, qui est vraiment content, il vient de loin, il vient de Langon. Je ne savais pas s'il allait pouvoir venir, sa femme était malade, mais il est venu. Merci beaucoup. Ouais.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Première fois qu'on s'est vu, tu m'as tout de suite dit ce qui t'avait conduit en prison.
Ouais.
Et puis c'était vraiment dur parce que Dan était accusé de meurtre. Et donc il risquait jusqu'à 30 ans de prison. Dan, tu as quel âge?
22 ans.
22, ouais, à chaque fois j'hésite. Mais 22 ans. 22 ans et on te propose 30 ans de prison. Et on t'accuse de meurtre. Et toi, tu cries. Hein, tu veux raconter un petit peu comment ça s'est passé? Tu m'as dit et bah, tu peux le dire.
Oui, du coup, en fait, ça s'est passé, un accident mortel, et c'est même pas moi, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et puis, ils m'ont accusé à moi, ils m'ont mis chef d'assassinat. Donc, chef d'assassinat, c'est hyper dur. C'est, voilà. Et donc, j'ai prié Dieu, en prison, j'étais complètement perdu. Je voulais même me suicider et tout ça. Parce que j'étais pour rien, voilà. Et je lui dis, j'ai prié Seigneur qu'il m'envoie quelqu'un, et puis un pasteur, ou enfin, Seigneur. J'ai trouvé Eric. Le frère Eric, quand je l'ai trouvé, ben, on a prié et tout ça. Il est venu tout le temps me voir dans la cellule et tout ça. On parlait dur, on priait, j'ai appris. Mes parents, j'ai dit à mes parents qu'ils m'envoyaient une Bible, ils m'envoyaient une Bible. Eric aussi, il m'a amené une Bible. Puis j'ai trouvé Jésus. Donc du coup, après 10 mois, toutes les enquêtes qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas savoir qui c'est, ils ne pouvaient pas trouver ça. Donc avec Eric, j'ai prié, j'ai continué à prier. Et après 10 mois, donc le 19 décembre, là il y a 2 mois.
Ça fait 2 mois qu'il est sorti. Hein. Et il a passé... Combien? 10 mois là-bas. Vas-y, là, raconte.
Ouais, donc le 18 décembre, le soir, donc j'avais pas. Je pensais, ils me donnent 30 ans pour rien, j'ai rien fait. Il y a les autres qui ont fait des conneries, oui. Peut-être qu'ils méritent d'être là pour 5-6 mois, mais j'ai rien fait, donc voilà. Et. Le soir, le 18 soir, enfin, le matin vers 5 heures, le 19 le matin vers 5 heures, il y a Jésus qui vient à la porte, à la cellule. Et puis.
Vous avez bien entendu, hein?
Jésus, il vient à la cellule. Il m'appelle à 5 heures, c'était 5 heures, il m'appelle par mon nom, c'était une excuse. Il m'appelle une fois. Il y a mon code de tenue qui l'a attendu, moi j'ai attendu, on n'a pas répondu. Encore une deuxième fois, plus tard, une heure, il y a mon code qui me dit, il t'appelle Stenescu, le surveillant, et tu ne lui réponds pas. Et la troisième fois, il m'a appelé Stenescu. Donc ça fait 3 fois, troisième fois. Et mon code, il me dit, tu ne réponds pas. Il t'appelle et tu ne réponds pas. Mais moi, j'étais bloqué, mais à la troisième fois, oui, je croyais que j'étais sûr que c'est Jésus. Il m'appelait par mon nom Stenescu. Et à 7 heures, quand il ouvre le surveillant, c'était à 7 heures l'appel. Il ouvre, il y a mon co-détenu qui dit Monsieur, le surveillant, c'est à 4 heures, vous venez à la porte, il vous appelle Stenescu. Non, j'étais pas au travail, mais c'est jamais il vient les surveillants à 4 heures, il y a 5 heures, il y a 6 heures. Il ne vient pas. Et après, je commençais à lui dire, c'est Jésus qui est venu m'appeler par mon nom. Il a rigolé, il n'a pas cru. Il vient Jésus à la cellule pour t'appeler toi. Moi, je me suis mis et à prier. Et quand je priais, il y a les larmes qui coulent. J'avais le Saint-Esprit complètement qui me disait. Et je dis comme ça, Jésus envoie-moi le surveillant qui me libère. Et quand je finis la prière, et le surveillant il ouvre la porte, ils disent, Monsieur Stenescu, vous êtes libre.
Il a été libéré sans jugement, il a été libéré après avoir entendu 3 fois son nom résonner. J'ai vu son co-détenu qui m'a dit, mais vraiment, il entendait, il y allait, il se passait. C'est un peu Samuel, vous vous rappelez l'histoire?
Oui, c'est ça, Samuel.
Et je voudrais rajouter, parce que c'est vraiment fort cette histoire, mais... Tous les temps qu'on passait dans la prière, les temps où il lisait sa parole. Alors, vous avez vu, moi je lui ai amené une Bible, c'est vrai, mais comme il est d'origine romaine, son papa lui a donné une Bible en roumain, il était tout le temps avec sa Bible, il se baladait même dans les couloirs avec sa Bible, c'est pas trop ce qui se fait en prison normalement. Hein. Et les derniers temps, il me disait, mais Eric, j'en peux plus, parce qu'il a eu aussi un enfant qui est né pendant qu'il était en prison. Hein, il a comment il s'appelle déjà ?
Michael,
voilà, un petit Michael qui est. Et la prière, c'était Seigneur. Nous, on priait ensemble parce qu'il me disait tout le temps, vous savez, il y a beaucoup de détenus là-bas qui disent, tu sais, c'est pas moi qui l'a fait. Mais quand on parlait ensemble, qu'on se regardait dans les yeux, qu'on priait, je savais quelque part que c'était pas lui qui avait fait ce dont il était accusé. Mais il y a tellement de voix comme ça que, ouais, mais tout le monde dit ça, t'inquiète. Et nous, Seigneur, on disait, Seigneur, montre la vérité, que ta vérité triomphe, que la vérité triomphe. Et un jour, sans intermédiaire direct d'avocat, de choses ou de. Eh bien, la personne qui a été. Je sais pas s'il s'est fait arrêter du coup, le gars qui a fait le.
Oui, voilà. S'est fait arrêter.
Et du coup, lui a été libéré. Wow. Ça nous rappelle quelque chose, ça, non?
Wow.
Et le jour même, la nuit avant d'être libéré, il n'y a rien qui lui disait qu'il allait être libéré. Hein. Ouais. La nuit avant, qu'il entende 3 fois son nom, mais je me dis, mais quelle tendresse, Seigneur. Quelle force dans ton amour. Quelle puissance dans ton secours. Mm-hmm. T'as entendu, tu connais la vérité et tu rends libre mon frérot. Et puis quand il m'a appelé après, il m'a dit, ça y est, je suis libre et tout. Ouais, alors il a pu retrouver sa femme, son petit s'est fait baptiser il y a 10 jours, hein, c'est ça?
Ouais,
voilà. 10 jours. Et on est vraiment content, continue à prier pour Dan, 22 ans, et puis que vraiment, lui, sa famille, qui s'appelle Esperanza, son fils Michael, puisse porter la lumière partout où ils vont, dans cette région de Langon, mm-hmm. puisse partager l'espérance et le témoignage de Jésus vivant aujourd'hui en lui, hein, de tout ce qu'il fait. Voilà. Merci Dan.
Okay. Okay. Merci à tout le monde.
J'aimerais juste partager quelques versets, puis on va avoir encore des témoignages. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean au chapitre 8, Jésus. Et là, Jean chapitre 8, on va prendre au verset 31 à 36. Jean chapitre 8, de 31 à 36. Jésus est en train de parler à des Juifs qui ont cru en lui. Il y avait beaucoup de Juifs qui s'opposaient à lui, mais là, il est en train de parler à des Juifs qui ont cru en lui. C'est-à-dire des Juifs qui, tout d'un coup, se sont dit, ça pourrait être le Messie, ça pourrait être celui qui a promis Ésaïe, ça pourrait être celui dont ont parlé les prophètes, ça pourrait être le Messie. Et il y avait beaucoup de voix, certains disaient c'est Jean-Baptiste, certains disaient c'est Élie, certains disaient c'est un des prophètes, mais là ce sont des Juifs qui avaient cru en lui. Et là il va s'adresser à ces Juifs, et il va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ces juifs qui ont cru en Jésus sont en train de dire « Nous sommes de la descendance d'Abraham ». Ils sont en train de trouver une justification par leur religion, par leur descendance, par la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Effectivement, Dieu avait dit à Abraham « Toute ta descendance, toutes les nations seront bénies dans ta descendance ». Donc ils se rattachaient à leur ancêtre Abraham, et leur foi, ils la mettent directement en contact avec Abraham et Jésus. Ils disent « Nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons pas besoin de cette liberté que tu es en train de nous partager. Nous n'avons pas besoin de cette liberté. » Parce que Jésus dit « Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. » Eux, ils disent « J'ai pas besoin d'être libre, je suis déjà descendant d'Abraham. » Et Jésus va dire que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La liberté que nous avons besoin de recevoir, c'est celle du péché. Il dit que le Fils de l'homme est venu pour libérer du péché, pour amener une libération. Et alors que l'on revendique notre religion, le Seigneur parle d'une liberté du cœur, d'une liberté du cœur où il peut régner. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On est en train de parler de détenus, de la maison de Gradignan, des gens qui avaient commis des actes de violence. Je rencontre régulièrement, j'étais hier avec 6 ou 7 gars qui ont tué, mais pour de vrai. J'aimerais vous parler de Denis. Je ne dis pas de nom, mais je dis les prénoms. Denis, il a tué quelqu'un il y a 4 ans, il est en prison depuis 4 ans. Il y a 8 mois à peu près, il était au mitard parce qu'il n'en pouvait plus. Il me dit « j'ai la haine en moi, je ne peux pas ». J'avais parlé avec lui, on avait partagé la parole. Il disait « non mais frère ». Je disais « mais ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Même si tu as tué quelqu'un, il est prêt à te pardonner ». Moïse avait tué. Paul a été témoin de... Barabbas avait tué, il a été libéré à la place de Jésus. Je lui dis, et il m'écoutait, mais il ne m'entendait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il écoutait, mais il n'entendait pas dans son cœur. Et pour nous, ça peut être la même chose. Parfois, on écoute, que celui qui a des oreilles écoute. Mais il n'entendait pas. Et un jour, il a été au mitard. Vous savez, le mitard, c'est encore pire. Une cellule, c'est petit. C'est 5 mètres sur 3, 5 mètres sur 4 à peu près. Il y a une toilette et ils sont jusqu'à 3 détenus, là. Parfois, il y a des fuites d'eau. Ah ouais, des fois, on dit, ouais, ils sont là-bas, ils ont bien mérité, ils ont mérité ce qu'ils ont. Et il y en a qui n'ont pas mérité, vous voyez, Dan n'a pas mérité, il était avec sa femme, sa fille, on lui a dit, c'est parce qu'il n'était pas loin d'un endroit où s'est commis quelque chose. Ne soyons pas prompts à juger, parce qu'on mérite tous quelque part d'être en prison, on mérite tous quelque part d'être morts à cause de notre péché. Denis, il s'est retrouvé au mitard parce qu'il avait eu un acte de violence, il s'était battu. Le mitard, c'est comme une cage avec des petits grillages. Et là, il n'y a qu'une toilette, c'est même pas une... Ouais, il y a une toilette au milieu. Et quand j'ai retrouvé Denis, parce que les aumôniers, alors ça c'est surprise, ils ont le droit d'aller en cellule. Toute la semaine, je suis en cellule. Quand Johnny parlait des échanges qu'on avait, on était en cellule. Les avocats n'ont pas le droit, les médecins pas directement non plus. Les aumôniers ont le droit, donc. Et on a le droit d'aller aussi au mitard. Et donc au mitard, dans cette espèce de petite cage, comme on ne pouvait pas se prendre la main pour prier, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais souvent, non pas que la main est magique et tout ça, mais je crois qu'on représente et on peut aussi avoir comme ça des moments. Alors là, on a juste mis le doigt, vous voyez, à travers le petit trou du grillage. On a mis le doigt et je lui dis « Montre-lui, Jésus, montre-lui combien tu l'aimes. Montre-lui que tu as tout accompli, Seigneur. Enlève cette colère, cette violence, etc. » On a prié quand le surveillant a dit « Maintenant, c'est fini, dehors, je suis parti. » 3 jours plus tard, Denis est sorti du mitard. Son visage avait changé. Et il me dit « Eric, il faut que tu viennes. » Alors je lui dis « Viens dans sa cellule. » Il me dit « Eric, au mitard, après quand tu es parti, j'ai pleuré. Je sentais qu'il était là, mais je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là. » Je dis « Waouh, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. » Et il a eu cette révélation, non seulement de la présence vivante de Jésus vivant au milieu avec lui, mais aussi de la force du pardon, qu'il était pardonné. Et ça, tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas dire « là j'y crois, là j'y crois pas, là je suis pardonné, là je ne suis pas pardonné ». Là, tout d'un coup, il y a une conviction qui s'est installée dans son cœur qu'il était pardonné. Et alors, il me dit ça et puis il se remet à pleurer. Denis, il ne pleurait pas, hein, tu l'as connu, Denis, hein. Ce n'était pas un gars qui pleurait, c'est un gars qui frappait, c'est un gars qui était connu pour être violent, qui trafiquait, qui faisait beaucoup de choses, mais pas trop pleurer, quoi. Et là, quand je l'ai vu en cellule, on a repris ensemble, etc., j'ai vu que son visage avait changé. Et il me dit, Eric, je suis tellement content, j'ai l'impression, même s'il me met 30 ans, je goûte la paix, je suis en paix. Mmh. Et je me dis, waouh, waouh, waouh. Il me dit, mais par contre, Eric, parce qu'il venait le samedi, on a des temps de... On appelle ça, moi je dis célébration, parce que le culte, c'est nos vies offertes à Dieu. C'est pas, hein, là, je sais pas, ce matin, tu es venu au culte ? Non. Mmh. Tu es venu célébrer ton Dieu, tu es venu manifester. Tu offres ta vie comme un culte, comme un sacrifice vivant. Mais... On a des fois dans notre langage des trucs un peu chelous, hein. Mais là, à la prison, en tout cas, on fait une célébration tous les samedis. Je ne vous choque pas, ça. On fait une célébration tous les samedis. Il m'avait dit, tu sais, Eric, et là, lors de cette célébration, on partage la parole, on chante. Tout à l'heure, on a chanté « Je suis plus esclave hein. ». Ça, on le chante chaque samedi. Mais ils le chantent, mais les gars, ils sont debout, ils lèvent la main, ils proclament qu'ils ne sont plus esclaves de la peur, qu'ils sont enfants de Dieu. Et là, il me dit, Eric, il y a une chose que je ne ferais pas, c'est faire comme les autres, le samedi, tout d'un coup, raconter que Jésus m'a pardonné, ça je ne le ferais pas, je ne me vois pas le faire devant tout le monde. Et moi, avec respect, je dis, mais Denis, jamais je te le demanderai. Jamais je te demanderai de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais les amis, le samedi suivant, j'ai mon Denis qui était super bien, qui dit, ah, t'es bien habillé, tout ça. Puis, je fais comme d'habitude, on chante, on prie, on... prends le temps de partager. Puis je dis, il y a quelqu'un qui veut partager ? Il y a Denis qui arrive. Et puis là, il commence à dire, vous voyez, vous me connaissez, hein ? Je vous faisais peur. Et là, il y a un endroit, bon, sauf respect, mais vous savez, il y a des gars qui s'appellent des pointeurs, ces gars qui ont violé, c'est difficile. Mais le Seigneur m'a donné un amour pour eux, je ne sais pas, il y a un filtre, il y a un truc, parce que normalement, si vous aviez connu l'ancien Eric, même pas, je leur parle. Mais là, je leur parle, je leur serre la main, je leur parle, je prie avec eux. Il y avait le coin où il y avait deux pointeurs. Il dit, je vous ai peur avant, et puis les gars, ils avaient l'air. Et il dit, et puis toi aussi, et là, il dit, maintenant, je vais vous raconter. J'avais la haine en moi, j'avais la haine, c'est pour ça que je vous ai peur. Mais maintenant, j'ai plus la haine, j'ai Jésus en moi. Et parce que j'ai Jésus en moi, je suis capable de te regarder, de te serrer la main, et même de t'aimer. Et il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est venu me voir l'autre jour, après il m'a laissé. Et il raconte son histoire, il raconte son témoignage. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il a tout accompli en puissance pour libérer les captifs. Oui, mais nous, on n'est pas captifs.
Si, on est de sortie.
Hein ? Exactement. On est tous captifs, les amis. On est tous captifs. On est tous en détention, on est tous dans des prisons. Jusqu'à ce que le Christ, le Seigneur, nous affranchisse, le Fils nous affranchisse. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Si le Fils te libère, tu seras vraiment libre. Libre de quoi ? Je suis libre. Écoute, si tu penses, si tu es dans la pornographie, tu n'es pas libre. Si tu es obligé de suivre des programmes radio, télé, pour t'apaiser, tu n'es pas libre. Si tu es dans des addictions d'alcool, de cacheton, qui ne sont pas prescrits par le médecin, mais que tu prends pour apaiser ton cœur, tu n'es pas libre. Si tu penses que Dieu peut te parler que le dimanche matin de 10h30 à midi, tu n'es pas libre. Tu es dans des prisons de religiosité, tu es dans des prisons d'addiction, tu es dans des prisons de pornographie. Tu as besoin que le Fils t'affranchisse. Tu as besoin que son esprit vienne te rejoindre là où tu en es, comme Denis au plus profond du mitard, pour te dire, je t'aime mon fils, tu vaux mieux que ça. Mon identité, elle est en toi. Et il le fait pour chacun d'entre nous. Ces choses dont j'ai parlé, j'en ai été esclave moi-même. Mais il m'a affranchi un jour. Et chacun de vous, vous avez connu cet amour. Mais il y a une puissance dans l'œuvre de la croix, pas simplement pour nous prendre notre sac de péché et nous dire, voilà, tu es pardonné, mais pour nous transformer de gloire en gloire par l'Esprit, pour nous transformer. Paul dit, je souffre. Tu souffres de quoi, Paul ? Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La vision, le cœur de Paul, c'est vraiment que Christ soit formé en chacun des frères et sœurs. Pas juste deux ou trois, lui peut-être pasteur, lui peut-être pour s'occuper des enfants. Non, que Christ soit formé en chacun de nous, qu'on soit transformé de gloire en gloire par son esprit et par sa parole. Sa parole, elle est comme un miroir, elle nous transforme. Je vais passer la parole à Ginelle aussi. Ginelle était en prison aussi. Il va raconter un petit peu. Et il va aussi, Ginelle, il a un cœur pour partager la parole par le chant. Donc, si tu veux venir, Ginelle. Il faudrait continuer. Vous voyez les détenus, donc, pendant que Ginelle vienne et puis vient et s'installe. Et les détenus, une fois qu'ils sont sortis, le Seigneur nous a mis à cœur. Alors, je voudrais vraiment rendre hommage à mon épouse Marie qui est là. C'est une compagne de guerre. Elle en a vu beaucoup, mais elle est toujours là. Et parce que les détenus, une fois qu'ils sortent et s'ils n'ont pas de maison, pas de famille, on les accueille à la maison. On a eu parfois jusqu'à 6 détenus aux gens de la rue à la maison. Et par sa grâce, toujours, ça s'est bien passé. Bon, des fois, on nous a piqué une carte bleue, on a eu des choses cassées, mais c'est quoi une carte bleue pour la vie de... Et notre vision et notre cœur, c'est que vraiment, chaque détenu, chaque ancien détenu puisse devenir un disciple de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de lien d'âme dans le sens de dépendance, hein, oui, comme je me suis converti là avec toi, mais qu'il y ait vraiment une réelle liberté. Et Ginelle, on s'est rencontrés il y a 3 ans, mais on ne s'est pas rencontrés en prison. Et puis, pour moi, c'est un honneur aussi qu'il soit là, parce que Ginelle, non seulement c'est mon frère, mais c'est mon gendre maintenant. Parce que je suis avec mon épouse, avec ma fille Julie, et mon petit-fils Yael. Et Ginelle s'est mariée avec Julie il y a un an, bientôt. Hein, ça va faire un an. Et je te laisse continuer.
Yes. Ben, bonjour à tous. Bonjour. Alors, si vous le permettez, je vais chanter, je vais rapper. Et du coup, ça pourra introduire un peu le témoignage que je viens de vous apporter aujourd'hui. Hop. Alors, ce qui est sympa ici, c'est que la salle, elle est petite, donc pas besoin de prendre de micro, ni d'utiliser les enceintes. Ouais, non, ça. C'est un chant que j'ai écrit et que j'ai eu l'occasion de chanter en prison aussi, il y a 2 semaines. Yeah. Ah. Que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Ah. Tu parles à mon cœur depuis que je suis sorti du ventre de maman. Tu t'es jamais tu m'aimes lorsque je traversais les pires moments. Mon identité ciblée depuis mon allaitement. Tu m'as jamais renié même lorsque j'étais en enfermement. Ta grâce a su toujours trouver le chemin de mon cœur. Même quand je riais de toi assis sur le banc des moqueurs. Le temps et les épreuves révèlent tout ce qui n'est pas de toi. Je vis un vrai calvaire à chaque fois que je m'éloigne de toi. Viens mettre en nous un dégoût profond de tout ce qui nous détruit. Afin d'être enfin utile pour la vie d'autrui. Les anges attendent des directives de ceux qui ont hérité. Encore combien dans le cœur du Père allons-nous irriter. Par adoption tu acceptas de faire de nous tes enfants. Mais nous vivons comme des orphelins qui n'ont pas de parents. Que les anges aujourd'hui ne nous voilent pas ta richesse. Qu'à jamais tu te glorifies à travers nos faiblesses. Aujourd'hui, ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Que le confort d'aujourd'hui ne me fasse jamais oublier les conditions dans lesquelles j'étais encore hier. Yes.
Amen.
Voilà, ça introduit un peu le témoignage du coup. J'ai rien préparé de spécial, mais comme Eric vous a dit, je suis son gendre, j'ai épousé sa fille. C'est beau comment le Seigneur il fait les choses, parce que je suis passé par la casse-prison et aujourd'hui je suis marié à la fille d'un aumônier.
Et aussi une chose, c'est que normalement il pourrait pas rentrer en prison, mais comment il a fait la prière pour y rentrer et il y rentre. Parce qu'il était en prison en Belgique et il vient régulièrement témoigner par le chant, par la parole vers les détenus.
Toujours en prison. Et donc voilà, moi je suis rentré à, je pense à, ça fait 5 ans maintenant que je suis rentré en prison et mon témoignage est un peu particulier parce que je suis rentré en tant que fils. Je suis pas rentré en tant que quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et disons que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, le royaume des ténèbres il est vraiment en colère, il est vraiment fâché. Et quand le Seigneur nous utilise beaucoup pour pouvoir amener justement la parole autour de nous, j'ai vu le royaume des ténèbres vraiment s'agiter de manière stratégique dans ma vie. C'est-à-dire qu'il suffisait juste à un moment donné où je n'étais pas centré pour que ça frappait vraiment fort du côté du royaume des ténèbres. Et bref, du coup, je suis rentré en prison il y a 5 ans, le jour des attentats de Charlie Hebdo. Disons qu'en Belgique, les juges ils étaient assez, assez excités un peu. Ils étaient assez... Enfin, tout le monde rentrait en prison, mais pour vraiment pour un rien. Enfin, là sur le coup, je suis rentré pour coups et blessures. C'était une période de ma vie où j'étais donc... je vivais dans une situation assez un peu précaire. J'avais 500 euros que je venais de sortir de la banque. Et on m'a volé en fait ces 500 euros. Et j'ai attrapé la personne qui m'avait volé ces 500 euros. Et je l'ai tapé. Donc du coup, sur le moment, je me disais en fait si je laisse cette personne partir, moi je vais devoir reprendre des choses un peu... c'était assez particulier, ça. Je vais reprendre des business pour pouvoir faire mon argent, alors que c'était assez particulier. Bref, je suis rentré en prison. Pendant une semaine, ça a été vraiment très difficile pour moi, parce que je ne comprenais pas. Je me dis, mais je ne mérite pas d'être ici. On me vole et c'est moi qui suis en prison aujourd'hui. C'est pas normal. Et très rapidement, après une semaine exactement, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a rappelé en fait qui j'étais durant deux nuits et j'ai complètement changé de manière de penser. Heureusement que j'avais déjà ce contact avec la parole. Ça m'a permis en fait de... Moi j'ai cherché un aumônier quand j'étais en prison, il n'a pas répondu. Du coup avec mon co-détenu, après la première semaine, je suis plus jamais sorti en fait. On restait dans la cellule toute la journée. Et j'ai pu être en fait une source de bénédiction finalement pour ce co-détenu qui était avec moi. Parce que je lui ai rappelé en fait qui nous sommes selon le ciel et non selon ce que les juges, ce que les hommes ont dit. Ce n'est qu'un petit épisode, ce petit passage en prison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux rentrer donc en prison. Je ne pensais jamais qu'ils allaient accepter mon dossier pour que je puisse rentrer, mon droit de visite. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu y rentrer. Quand on a l'occasion d'y aller, en tout cas, c'est un témoignage vraiment vivant pour ces détenus, comme moi j'ai été moi-même détenu. Des fois, ça peut paraître choquant d'entendre, il a fait ci, il a fait ça, il est passé par la prison, tout ça. Mais... la Bible nous dit clairement dans le livre de Romains que nous sommes tous détenus, nous sommes tous prisonniers de Christ. Nous qui étions esclaves de la loi, nous sommes aujourd'hui prisonniers de Christ, nous lui appartenons. Disons que la justice de Christ en moi criait beaucoup plus fort que l'injustice à laquelle j'étais. Je devais faire face à ce moment-là. Et pour en revenir au chant que j'ai chanté, en fait, ces derniers temps, ma plus grande prière envers Dieu, c'était vraiment « Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour être constant avec toi ?» C'est-à-dire que souvent dans notre vie chrétienne, on a des hauts, on a des bas, on a des périodes où tout va bien, puis des périodes où on fréquente plus les frères et sœurs, on s'éloigne un peu, tout ça. Et je pensais beaucoup à l'histoire du fils prodigue, où il demande son héritage, il part, il gaspille un peu cet argent-là. Il vit un peu tout ce qu'il a à vivre dans le monde et puis il retourne chez son père qui l'attendait les bras ouverts. Et je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le fils prodigue après qu'il rentre chez son père? Et souvent, dans notre vie chrétienne, on a tous été réconciliés à un moment donné avec Dieu. On a tous retrouvé le cœur du père. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'après.
C'est ok, j'étais détenu pendant un petit temps, mais qu'est-ce qui se passe après ma détention? Ok, avant j'étais, je croyais pas en Dieu, etc. J'ai découvert Dieu, mais aujourd'hui ça se passe comment concrètement dans notre marche chrétienne? Et est-ce qu'il est possible de mener finalement une vie chrétienne où on peut avoir une certaine constance avec le Seigneur? Et j'ai beaucoup souffert un peu de ce déséquilibre en fait où je menais quelque chose de glorieux avec Dieu, ce que j'ai vraiment vu à l'œuvre. Et puis des moments où j'étais au plus bas, etc. Et je pense que c'est possible aujourd'hui d'avoir cette constance avec Dieu. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, le fait de se retrouver comme ça avec des détenus, pour moi, ça dépasse mon entendement, ça dépasse ma logique, etc. Et voilà, moi, tout ce que je voulais faire, c'est vous donner des encouragements par rapport à que le confort dans lequel nous pouvons être aujourd'hui, parce que nous lui avons donné sa vie, etc., que ça ne puisse pas être quelque chose où on se dit moi, j'ai plus rien à faire, maintenant je connais la Bible, de Genèse à Apocalypse, qu'est-ce qu'on va m'enseigner encore de plus si par exemple le cœur d'Eric a été touché pour aller voir les prisonniers, c'est quelque chose qui est vraiment donné à tout le monde. On a beaucoup de personnes dans notre entourage qui sont prisonniers de beaucoup de choses, comme Eric le disait, d'addiction ou autre, de convoitise, enfin de plusieurs choses. On peut aller vers ces personnes-là et leur amener la parole. Si nous avons été sauvés, c'est pour sauver aussi à notre tour. Si nous avons été enseignés à un moment donné, c'est pour enseigner à notre tour. Et quand j'étais en prison, à un moment donné, j'étais vraiment centré sur moi-même. Et ce que l'Esprit a fait, en fait, c'est me décentrer de moi-même et prendre conscience que la parole des hommes, des juges, c'est pas une fin en soi, en fait. Et c'est là que même l'Esprit m'a donné un passage que je connaissais pas avant, qui disait la justice des hommes est comme un vêtement souillé pour Dieu. C'est quelque chose que j'avais écrit en grand sur mon mur dans ma cellule. Et je dis, ok Seigneur, c'est toi ma justice. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Cette personne qui m'a volé et qui m'a pris tout ce que j'avais au final, parce que c'est vraiment tout ce que j'avais, c'est 500 euros, comment j'aurais dû réagir? Et le Seigneur m'a montré ce passage où il dit lorsqu'on vous volera ou
on prendra
votre manteau, donnez-lui. Et je me dis, ah ouais, ok, j'aurais dû rester là et puis laisser la partir.
C'est dur.
Et souvent, c'est dans nos réflexes qu'on voit en fait où nous en sommes. C'est que, avec les frères et sœurs, tout ça, c'est bien, on chante, tout ça. Mais c'est dans les réflexes de la vie de tous les jours qu'on voit où nous en sommes réellement dans notre foi.